Je suis très attachée à mes valeurs chrétiennes. Dans un monde où les besoins sont importants, il est primordial de préserver le lien entre charité, justice sociale et spiritualité.
Christianisme et écologie.
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente.
Avant tout, il faut affirmer qu'il existe un vrai droit de l'environnement parce que nous, les êtres humains, nous faisons partie de l'environnement. Nous vivons en communion avec lui car l'environnement lui-même comporte des limites éthiques que l'action humaine doit reconnaître et respecter.
Le pape François a remporté un grand succès aux États-Unis, un pays où il ne s'était jamais soucié d'aller et qu'il regardait sans doute comme l'antithèse de la sobriété heureuse. Ses déplacements en Fiat 500 ont valu 10 homélies, je répète, mais les interventions qu'il a faites au Congrès, à Washington et à l'ONU, à New York, compteront pour l'avenir. Dans la droite ligne de son encyclique, Laudato Si, il a dénoncer les préjudices irréparables que l'homme fait courir à la création et d'un même mouvement, l'injustice sociale qui accompagne la dégradation de l'environnement. Évidemment, le pape est allé répétant qu'il s'inscrivait dans la tradition de ses prédécesseurs. Néanmoins, il faut bien constater qu'il opère en ce domaine, comme dans d'autres, une conversion, voire une transgression. Une interprétation bien ancrée du récit biblique invitait en effet à croître et à multiplier, à agir sur la nature en la dominant. Et voilà que le catholicisme, qui était déjà devenu rétif à la technoscience, invite maintenant à sortir de la religion de la croissance. Ce n'est pas elle qui ressuscitera les poissons morts. On verra ce qu'il adviendra de l'intention prophétique de François. En tout cas, un premier résultat est de suite atteint, alors que la culture moderne n'a de cesse d'exfiltrer le catholicisme. Celui-ci rentre par la fenêtre de l'écologie et soudain parle à l'unisson des nouvelles sensibilités contemporaines.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Dominique Bourg, philosophe, qui était déjà venu à la marche de l'histoire pour parler de son anthologie de la pensée écologique. Bonjour à vous.
Bonjour Jean Lebrun.
Avec Alain Papeau et 260 contributeurs. Un comité scientifique de 6 personnes, vous publiez maintenant un dictionnaire de la pensée écologique en 350 articles. On dit que les écologistes n'aiment pas le genre humain, ça vous a rendu misanthrope, la confection de ce dictionnaire?
Alors, ce n'est pas l'écologie qui m'a rendu misanthrope, rassurez-vous, mais effectivement, comme tout directeur des dictionnaires, on est assez là, si vous voulez, les gens ne font jamais, en fait, les collègues, donc ce qu'on leur demande.
Oui. Alors, entre l'article chimie verte et l'article circuit court, il y a un article christianisme, mais on va fureter un petit peu dans tous les sens, parmi les... Combien de pages dans votre dictionnaire?
À peine en dessous de 1100, je crois.
Les 1000 pages de votre dictionnaire. J'ai trouvé un article, c'est pas difficile, intitulé « Racines historiques de notre crise écologique » et qui insiste sur l'importance d'un texte cité ainsi de Lynn White. Alors c'est un texte des années...
Alors c'est un texte qui paraît dans la revue Science en mars 1967.
Alors c'est un historien, c'est un historien spécialiste de la Bible.
C'est un protestant, presbytérien, etc. Mais c'est aussi et surtout un historien des sciences et techniques médiévales qui a joué vraiment un rôle extrêmement important. Cet article-là, cela fait à peu près 50 ans qu'on le commente et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que l'encyclique à laquelle vous avez fait allusion est un énième commentaire.
Et peut-être même que le pape s'inscrit en contradiction avec cette idée de Lynn White très répandue, selon laquelle la religion la plus anthropocentrique, la plus centrée sur l'homme de toutes les religions, c'est le christianisme.
C'est une phrase, une citation de ce texte de Lynn White. Alors, il faut le remettre en contexte, hein, justement. C'est pas le christianisme, précisément. C'est une interprétation du christianisme qui, à partir du 11-12e siècle, va devenir dominante. Et elle va en fait se transformer en représentations populaires qui vont irriguer les comportements.
Oui, enfin, quand même, c'est fondé sur quelques textes bibliques et sur plusieurs versets qu'on pourrait citer en rafale de la Genèse.
Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux.
Alors on pourrait discuter de cette traduction, mais après tout, la traduction œcuménique de la Bible de Jérusalem, n'ont qu'à donner sur le net des versions audio et on ne recourrait pas à celle-ci qui est peut-être un peu fondamentaliste, enfin fondamentaliste ou pas. L'interprétation dominante qui paraît de bon sens, c'est voilà, les créations sont séparées, les créations sont hiérarchisées, et il nous est dit, croissez, multipliez, dominez.
Absolument. Alors, en fait, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est la seule parmi les créatures à être à la ressemblance du Créateur. Il aurait donc supérieur et il aurait vocation à les dominer. Mais comme on le verra peut-être tout à l'heure, ça n'est jamais qu'une interprétation, mais effectivement, on appelle cette interprétation-là, l'appellation classique, c'est l'interprétation despotique, essentiellement fondée sur Genèse 1:28, comme ça vient d'être rappelé ici. Et donc là, on a un homme qui doit, enfin une humanité, entendons-nous bien, qui doit maîtriser la nature, et parfois avec violence, soyez craints.
Je continue la lecture de l'article de Lynn White, les racines historiques de notre crise écologique. Il sait quand même qu'il y a d'autres versets de la Bible qui pourraient être appelés en contrepoint. Isaïe 11, alors, oui, puisque alors, vous avez l'air hyper compétent, Dominique Bourg. Vous savez, le loup habitera avec l'agneau, les enfants pourront mettre leurs mains sur le trou de la vipère.
Là, on est dans la veine prophétique. Et le propre de la veine prophétique, c'est de préparer d'ailleurs l'idéologie du progrès, mais pas au sens où l'entend aujourd'hui. L'idéologie du progrès en deux sens, c'est-à-dire le premier, eh bien, en fait, on va pouvoir tous vivre à notre fin, ce qui n'était pas tout à fait quand même évident, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est une conversion morale qui va nous amener à cette métamorphose. Et cette métamorphose, c'est pas simplement la métamorphose de la condition humaine, vous venez de le rappeler avec le loup et l'agneau, c'est une métamorphose cosmique. Ça, c'est une grande espérance du christianisme. Alors, cela dit, dans la Genèse elle-même, et ça, c'est très important.
Retour à la Genèse.
Alors, retour à la Genèse, c'est fondamental. Et en fait, trois, si vous voulez, interprétations possibles. Le propre d'un texte religieux, c'est de dire parfois des choses quasi contradictoires, très différentes. Donc, suivant la sélection qu'on va faire, suivant la pondération qu'on fait, on n'a pas le même sens. Donc, la première interprétation, vous venez de le dire, c'est l'interprétation despotique. La deuxième, c'est Genèse 1:30, c'est Dieu qui reconnaît que finalement, avant la création de l'homme, que de sa création, dit-il, tout est très bon. En d'autres termes, les choses créées ont une valeur avant et indépendamment de l'homme. Donc l'homme ne peut pas faire n'importe quoi avec toutes ces créatures qui l'ont précédé et qui ont une valeur à l'égard de Dieu. Ça, on appelle ça l'interprétation de l'intendance. Donc dans ce cas-là, le rôle de l'homme, c'est d'être une espèce de jardinier de la création. Mais attention, si les choses ont une valeur en elles-mêmes, eh bien c'est ce que les écologistes philosophes, plus tard, bien plus tard évidemment, appelleront la valeur intrinsèque. Ça veut dire que chaque créature a une valeur en elle-même. Elle doit être respectée pour elle-même. Ça va très loin.
Et la troisième interprétation,
encore plus radicale, c'est ce qu'on appelle l'interprétation citoyenne. Ça vient du terme Adam, qui veut dire la terre. Et d'ailleurs, effectivement, en latin, humanité vient d'humus. Et donc là, en fait, puisque l'espèce humaine est tirée de la terre comme toutes les autres espèces, elle est donc à l'égalité des autres espèces. Et c'est ce qu'on appelle l'interprétation citoyenne.
Alors, il y a les interprétations différentes d'un même texte, il y a les traditions différentes dans le christianisme, l'écologie russe a été, dites-vous, précoce, c'est peut-être parce que les pères orientaux qui ont irrigué la tradition russe et qui avaient l'expérience de l'ascétisme, de la sobriété très sèche, avaient un autre point de vue peut-être.
Alors, cela dit, en Occident aussi, on a l'expérience de l'ascèse. Mais comme aurait dit Max Weber, c'est plus une ascèse active qu'une ascèse contemplative. Et c'est là que se niche, en fait, la différence fondamentale entre l'Orient et l'Occident, dont, évidemment, parle beaucoup Lin White.
Alors, Lin White...
Voilà, il parle d'interprétation dans l'Occident latin médiéval.
Lin White est aussi un historien de la transformation au Moyen-Âge, de la modernité au Moyen-Âge. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme lui a permis d'inventer des techniques d'élevage et d'agriculture, parmi lesquelles la charrue.
Combien tu en as fait de charrues ici? Eh, va chercher. Peut-être 300, peut-être plus.
J'étais venu pour vous dire, faites-moi une charrue.
Mais dis-moi, ça ne te ressemble guère de vouloir une charrue. Tu es plutôt chasseur, toi.
Mmh.
Et il te vaudrait mieux un sabre.
Moi, vous savez, Père Gobert, la chasse, un jour c'est bon, un jour c'est mauvais. Non, j'ai trouvé une terre.
Ah, ça a l'air profond et bien gras.
Alors l'envie m'a pris d'y faire du blé.
Je te la ferai, cette charrue. Et je veux que ce soit une des miennes qui commence.
Vois-tu, Gobert, ce que je veux, c'est du blé. C'est mettre du blé sur toute la bosse de Chennevières. C'est faire pousser du blé tout le tour d'Aubignan, jusqu'aux portes des maisons. C'est mettre du blé partout.
Alors, ça sera une bénédiction de blé.
Vous voyez, on peut faire des textes bibliques, des interprétations différentes. On dit souvent que le Regain de Pagnol, c'est un film écologiste. On en a fait, nous, un film techniciste.
Techniciste, oui.
Parce que de la charrue vont, selon notre ami Lin White, maintenant bien connu de nos services, découler beaucoup de transformations.
L'Occident moderne. L'Occident moderne. La charrue, selon Lin White, eh bien, c'est un changement fondamental dans la relation à la terre. Avec l'arrière, on ne fait jamais que gratter le dessus du sol. Avec la charrue, on le retourne. Il y a donc une relation beaucoup plus violente, il y a une manipulation beaucoup plus forte du sol. Et pour tirer une charrue, ça ne peut pas être avec un homme comme un arrière. Il faut au moins un, si ce n'est plusieurs, bœufs, si la terre est un peu lourde. Donc là, on a déjà, si vous voulez, autour de la charrue, tout un système social qui va se constituer et qui se constitue autour de la technique et autour de l'idée de puissance associée à la technique.
À Clairvaux, à l'occasion du 900e anniversaire, se tenait l'autre jour un colloque sur l'industrie cistercienne. Les cisterciens creusent des canaux et quand même, c'est aussi beau un canal qu'une rivière naturelle. Et puis les chartreux font de la métallurgie. Et puis, de cette matrice de la théologie occidentale du Moyen-Âge, naîtra, à certains égards, on peut certifier cette origine, la science moderne.
La science moderne, ça c'est clair. Cela dit, les cisterciens, c'est pas encore Bossuet qui rectifie le cours d'eau qui passe dans sa propriété. Mais effectivement, on a là, petit à petit, avec effectivement la métallurgie, la sidérurgie, l'hydraulique cistercienne, avec la grande révolution agricole des 11-12e siècles, eh bien, s'instille dans les esprits le fait que la technique peut vraiment transformer nos relations au monde, peut transformer notre existence et peut la rendre immensément plus confortable. Et on a là l'idée, si vous voulez, alors la première fois, c'est dans la lettre sur les œuvres secrètes de Francis Bacon, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises. Eh bien, c'est dans cette lettre sur les œuvres secrètes que pour la première fois apparaît l'idée d'une suite indéfini de progrès techniques, ce qui aurait paru absurde, ce sont les anciens, ce serait pas du tout posé ce problème. Et en fait, il y a une sorte de continuité, il y a aucune solution de continuité entre Roger Bacon, ce franciscain dont je viens de parler, et puis Francis Bacon, fin 16e, début 17e, ou Descartes, eh bien, on a vraiment l'idée, alors là, ça va, on lui fait franchir en quelque sorte une étape, mais on va avoir une idée beaucoup plus puissante. Non seulement on peut, avec les techniques, améliorer le confort des hommes, mais on peut même transformer la condition humaine. Et vous en avez la dernière expression aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le transhumanisme.
Mais pour les catholiques, ça s'appelle le développement. Les catholiques ne vont pas aimer le transhumanisme ni la technoscience qui essaie de modifier la procréation humaine. Mais le mot développement est jugé noble par les chrétiens de progrès du XXe siècle et il est défendu par le pape Paul VI quand il vient il y a 50 ans à l'ONU.
Populorum Progressio.
Une encyclique qui a aussi eu beaucoup de succès au-delà du catholicisme. Ça, c'était notre première étape. Dominique Bourg, on va poursuivre notre chemin dans votre dictionnaire de la pensée écologique, en repérant ce qui y concerne le christianisme. Mais changement de pied, Julos Bocarn. Tiens, je suis heureux de vous faire connaître Julos Bocarn. Oui, vous l'ajouterez à votre index. C'est un très grand chanteur belge. Il est déjà dans une sensibilité franciscaine, du nom de François d'Assise, dans cette chanson.
Ma sœur, la pluie, la belle et tiède pluie d'été, doucement vole, doucement fuit à travers les airs mouillés. Tout son collier de blanches perles dans le ciel bleu s'est délié. Chantez les pies, dansez les merles parmi les branches qu'elle plie. Dansez les fleurs, chantez les nids, tout ce qui vient du ciel est béni. Puis vient le soleil qui essuie de ses cheveux d'or les pieds de la pluie. Ma sœur, la pluie, la belle et tiède pluie d'été.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Quand le cardinal Bergoglio est élu pape, le choix qu'il fait du nom de François éveille l'attention. Si notre ami Lynn White était encore vivant,
il aurait été comblé, mais il aurait déjà été comblé par Jean-Paul II. Hein, Lynn White propose que l'on fasse de François d'Assise le patron des écologistes. Et celui qui lui emboîtera le pas, alors, quelques décennies après, c'est effectivement Jean-Paul II qui consacrera François d'Assise, patron des écologistes.
Oui, mais alors, l'encyclique qui est parue avant le voyage du pape aux États-Unis qu'on évoquait au début de cette émission, elle commence par une longue citation de François d'Assise et son titre à soi seul est déjà un programme. D'habitude, sauf exception, Pie XI s'adressant aux Allemands, avant la Deuxième Guerre mondiale, une encyclique, ça porte un titre en latin.
Quasi systématiquement, à part cette exception-là, et cette nouvelle exception, où là, on a la langue de Saint-François, l'ombrien, m'avez-vous dit tout à l'heure, mais en tout cas la langue de Saint-François de l'époque, et effectivement, c'est une exception, et ça donne vraiment le ton. D'ailleurs, Laudato si. Hein, et je dirais que les premières pages de l'encyclique sont d'une poésie extrême, elles sont très très belles, elles sont alors mais totalement franciscaines. Absolument inspiré de François d'Assise.
Au fond, c'est pas mal la poésie pour parler d'écologie. Paul Claudel disait qu'on comprenait rien de nos pâquerettes dans la prairie si on ne comprenait rien à la place du soleil dans le système des étoiles.
Alors c'est la leçon de François d'Assise, c'est-à-dire que l'homme appartient résolument au cosmos.
Mes frères, les petits oiseaux, vous qui pouvez louer Dieu si facilement de vos chants, parce que vous êtes libre et que vos ailes ont toute la pureté de l'air pour s'ébattre. Soyez sages, écartez-vous que je puisse chanter ces louanges à mon tour tranquillement. Béni soit le Seigneur et toutes ses créatures. Béni soit en particulier Messire le Soleil, notre frère, qui lui est resplendit par toi, Seigneur. Il est beau et radieux, grande est sa splendeur. Il porte ta marque toute puissante. Béni sois-tu, Seigneur, pour avoir créé notre sœur la lune et nos sœurs les étoiles, que tu fis claires, précieuses et belles dans le firmament. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air, le ciel, les nuages et le temps qui communiquent la vie à toutes tes créatures. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'eau qui nous est indispensable, mais reste claire, humble et chaste. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu qui illumine la nuit, qui est beau, joyeux, vaillant et fort. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous abrite, nous nourrit et nous protège, qui produit des fleurs chatoyantes, des fruits et de l'herbe. Louez et bénissez le Seigneur, remerciez-le et servez-le avec grande humilité.
Extrait du film de Rossellini. Oui, mais la Bible pose des problèmes de traduction, mais l'ombrien de Saint-François aussi. Jacques Dallaringue, le grand spécialiste de Saint-François, dit « Est-ce qu'il faut dire « béni pour » ?» Ça n'a pas le même sens que quand on dit « béni par ». Et si on disait ce qui serait peut-être d'après lui le mieux, « béni à travers », ça veut dire que Dieu parle à travers toutes les créatures et que l'homme doit répondre à la parole de Dieu qui passe par les créatures. Vaste débat.
Vaste débat, mais je trouve que sa proposition de traduction est très belle. Elle l'exprime vraiment l'esprit franciscain. Hein, tout à l'heure, on parlait d'écologie citoyenne, enfin d'interprétation citoyenne de la Genèse. Alors là, on est au cœur de l'interprétation citoyenne, c'est-à-dire que il n'y a pas de supériorité de l'homme par rapport aux autres éléments de la création, frères, sœurs. Tous sont faits de la même étoffe terrestre. Et alors justement, ce qui est aussi très important, c'est que c'est à l'intérieur de cette étoffe terrestre aussi que Dieu parle, que Dieu est présent. Ça ne peut pas être qu'intellectuel comme affirmation. Chez François d'Assise, c'est le cas, ça n'est absolument pas le cas, mais ça exige une espèce de sensibilité à la nature, une sorte, alors, au sens universel du terme, de fraternité très ressentie avec les éléments de la nature. Et ça, on le sent de temps en temps dans l'encyclique.
Il y a un grand article Saint-François d'Assise, on viendra à l'encyclique et aux déclarations du pape plus précisément tout à l'heure, dans votre dictionnaire de la pensée écologique, Dominique Bourg. Et il est dit qu'il faut faire attention à la traduction concernant la terre. Il faudrait non pas dire la terre-mère, mais notre sœur, la terre-mère. Eh bien, c'est extrêmement important parce que le catholicisme ne peut pas être partisan de la gouvernance du monde par la terre-mère. C'est païen.
Alors, c'est très, très complexe. Effectivement, le premier mouvement, et c'est une sorte d'opposition, même de déchirure avec l'Antiquité. On a l'idée d'un Dieu transcendant, d'un Dieu donc qui serait étranger, extérieur à la nature, si on pousse cette idée au bout. Et ça, c'était une espèce de divorce radical avec la pensée grecque. Il y a la rencontre avec le paganisme, la nécessité de mettre à distance, et une fois que ce travail de distance est fait, une fois que quelque chose comme la transcendance se donne à penser, eh bien on peut dans un second temps énormément nuancer. Dieu est à la fois transcendant, mais en même temps présent dans les créatures, dans la nature.
Oui, mais je reviens quand même aux attitudes néo-païennes si fréquentes aujourd'hui qu'on retrouve dans articles deep écologie dans l'écologie profonde, la terre-mère.
Alors,
une vieille résurgence du révolu, de l'archaïque même.
Oui, si on lit les choses à travers de François d'Assise, justement, le contraste, l'opposition est beaucoup moins marqué. Et si de la terre-mère j'en fais une sœur, eh bien en ce sens-là, elle n'offense absolument pas la divinité.
Vous retrouvez Bernard Fortum, l'article François d'Assise du dictionnaire de l'écologie. Dans les textes du pape, il y a une autre source, ce sont les déclarations des communautés chrétiennes, des conférences épiscopales, attendez, pas de n'importe lesquelles, celles des pays pauvres, celles qui disent quand les eaux vont monter, les pauvres seront submergés, par contre vous autres les riches, vous vous réfugierez sur la montagne. Et alors ça, on va retrouver ces accents d'association de l'écologie avec la question de la justice sociale dans le discours devenu déjà fameux à l'Assemblée Générale de l'ONU, avec une traduction ici fournie par la Conférence Épiscopale Française, si on ne peut plus catholique ou orthodoxe.
L'abus et la destruction de l'environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable d'exclusion. La soif égoïste et illimitée de pouvoir et de bien-être matériel conduit autant à abuser des ressources matérielles disponibles qu'à exclure les faibles. L'exclusion économique et sociale est une négation totale de la fraternité humaine. est une très grave atteinte aux droits humains et à l'environnement. Les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus de ces atteintes. Ils sont marginalisés par la société et ils sont en même temps obligés de vivre des restes. Et ils doivent subir injustement les conséquences des abus sur l'environnement. Ces phénomènes constituent aujourd'hui la culture des déchets, aujourd'hui si répandue et inconsciemment renforcée.
Alors là, un latino-américain sait ce que c'est, les déchets sous le poids desquels on ploie. Tandis que la civilisation urbaine ordurière de l'Occident. Je cite l'auteur de votre article « Déchets expédie les déchets chez les pauvres ».
Alors, déchets, c'est à entendre en deux sens ici. C'est déchets au sens propre, hein, la chose qu'on abandonne. Au XIXe siècle, il n'y a pas de déchets dans les villes. C'est grâce au préfet poubelle qu'on va voir les déchets. Et effectivement, vers la fin du siècle, les déchets apparaissent. Mais les déchets, c'est aussi en un sens métaphorique, la part de l'humanité démographiquement largement majoritaire qu'on rejette. C'est ça le déchet, la culture des déchets. C'est, si vous voulez, c'est une culture du déni de la solidarité avec autrui et du déni de la solidarité avec les autres créatures, avec, si vous voulez, la Terre. Et c'est précisément ce que le pape appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire liée à la fois le respect pour Dieu, le respect pour autrui et le respect pour les autres créatures et la Terre elle-même.
Il emploie le mot « développement durable », article « développement durable » dans le dictionnaire. Il dit, attention, hein, le nominalisme bureaucratique, on fait des listes de bonnes intentions, les 17 objectifs de développement de l'ONU, ça peut dissimuler en fait l'inefficacité. Il lui arrive, article « décroissance » de votre dictionnaire, d'employer, pas aux États-Unis, mais dans son encyclique, il n'est pas fou, le mot « décroissance ». Décroissance, dans certaines parties du monde, marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Décroissance. Alors là, le cardinal de Lyon, le cardinal Barbarin, il a les cheveux qui se dressent sur la tête, il a du mal. Hein.
Il va finir par l'accepter, apparemment il est en bonne voie. Mais bon, cela dit, effectivement, vous l'avez dans la traduction française, dans le texte italien, dans le texte espagnol, etc. Mais vous n'avez pas dit growth, hein, qui c'est un néologisme assez récent, dans la traduction anglaise. Bon, première remarque à faire. Maintenant, cette décroissance qu'il appelle, enfin, il est clair, pour quiconque a une connaissance des flux de matière et des flux d'énergie sur Terre, c'est que le seul moyen pour que l'ensemble des êtres humains accède à un standard matériel minimal, ça serait précisément que ceux qui regorgent de matière et de richesse en aient moins. Et de manière générale, ça c'est vraiment au cœur de cette encyclique, et on le sait par l'histoire, et c'est juste, ce n'est pas qu'une posture éthique ou, si vous voulez, ou morale. En fait, c'est une leçon de l'histoire, ce sont toujours les inégalités entre les hommes qui vont tirer la consommation, et c'est toujours au nom de l'inégalité qu'on commet des razzias sur les ressources.
Mais la décroissance est une hérésie par rapport à la religion de la croissance.
Ah, ça c'est clair, elle est totalement contradictoire. Cela dit, entre nous, la religion de la croissance, on peut déjà aller à confesse pour elle, hein, elle est mourante.
Mais bientôt, il va nous dire de ne pas nous reproduire comme des lapins, parce que...
ça, c'est le seul point un peu délicat de l'encyclique. Hein.
Oui, mais justement, l'idée, c'est de dépasser ces conflits avec la société contemporaine laïque et de nouer le dialogue avec les forces laïques nouvelles. C'est ça, la stratégie du catholicisme dans cette occurrence.
Oui, alors c'est une stratégie qui est tout naturellement portée par la cause écologique. Hein, l'expression très belle qui revient sans cesse dans Laudato aussi, c'est la maison commune. La maison commune, c'est pas la maison des seuls chrétiens. Voilà. Donc ça n'aurait pas de sens. Donc effectivement, il faut retrouver le sens du bien commun, le sens de l'intérêt général, un certain sens de l'universel.
La maison commune, c'était une expression de Gorbatchev. Dictionnaire de la pensée écologique, Dominique Bourg et Alain Papeau. C'est aux presses universitaires de France. 39 € seulement. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Guillaume Roux à la technique, Frédéric Martin, Franck Olivard, Elinka Negulesco et Céline Loriou dans notre équipe. Mathieu,
quel est votre programme? Nous allons revenir très loin en arrière.
Oui, on va parler d'un trésor de l'humanité, Jean, avec Littlefoot, un australopithèque de 3,7 millions d'années.
Merci.